Muriel Balamon est avec nous. Bonjour Muriel.
Bonjour.
Récompenser les professeurs selon le travail fourni, c'est le système de rémunération qu'a choisi la ville de Zurich. Les enseignants peuvent depuis cette année obtenir des bonus, mais selon le Tagesanzeiger, ce type d'encouragement n'est pas bien vu par les professeurs eux-mêmes, Muriel.
Oui, ils sont presque trois quarts ces profs qui sont plutôt opposés à ces bonus, selon un sondage de l'Association des enseignants zurichois qui a voulu sonder ses membres. La raison, des critères trop flous et arbitraires qui présideraient au destin de ces 6 millions de francs mis à disposition par le canton cette année, des critères qui récompenseraient jusqu'à 8 000 francs les professeurs les plus engagés, pas forcément ceux qui ont le plus grand nombre d'élèves dans leur classe, mais ceux qui enseigneraient à des élèves difficiles, ce sont eux les plus engagés.
Et l'association propose une autre clé de répartition que la rémunération par le bonus.
Oui, ce n'est pas pour autant que les enseignants veulent tracer une croix sur ces 6 millions. L'association des enseignants zurichois voudrait s'en servir pour augmenter les salaires de ses membres les moins bien payés, les jeunes donc.
La rémunération au mérite, d'autres cantons en ont débattu déjà.
Oui, c'est le cas du canton de Berne, dont la pénurie de professeurs s'est fait durement ressentir. Une motion du PLR réclamait l'indexation du salaire au mérite. Le conseil exécutif du canton de Berne l'a rejeté au motif que ce n'est pas ce critère qui augmenterait la qualité de l'enseignement bernois déjà assuré par d'autres moyens.
Faut-il payer les enseignants au mérite? C'est le débat qu'on vous propose aujourd'hui et vous pouvez y participer via notre page Facebook ou sur Twitter en utilisant le hashtag ENLD. Vous pouvez aussi nous contacter par téléphone au 0800 23 33 33.
En ligne directe, Dania Baril, Muriel Balamand.
Trois invités avec nous ce matin, Peter Gasser, Alain Salamin et Alexandre Graff. Bonjour et bienvenue à vous.
Bonjour.
Peter Gasser, vous êtes coprésident du syndicat des enseignants du Jura bernois, également enseignant au secondaire, mais aussi député socialiste et membre du conseil du Jura bernois en charge de l'instruction publique. Alain Salamin, consultant aux ressources humaines et chargé de cours à HEC Lausanne. Vous êtes spécialiste de la question de la rémunération. Et Alexandre Graff, directeur d'une société de conseil en management à Genève. On l'a vu, les enseignants sont très réfractaires à l'idée d'être récompensés en fonction de la qualité de leur travail, que ce soit par le biais de bonus, comme à Zurich, ou par le biais du salaire au mérite. Peter Gasser, vous vous étiez d'ailleurs battu contre cette proposition l'année dernière à Berne. Alors pourquoi une telle opposition ?
Eh bien, je dirais en premier lieu pour une raison très simple. Actuellement, on est plutôt dans une équipe enseignante que dans un travail totalement individuel. Le salaire au mérite correspond à une vision extrêmement individualiste. Or, actuellement, les enseignants vont travailler beaucoup plus en équipe et c'est en fait l'équipe qui va pouvoir apporter un plus. Or, comment allez-vous faire une dynamique positive dans une équipe si il y a par exemple des différences salariales? Ça devient absolument difficile à réaliser.
Pourtant, un enseignant est seul dans sa classe lorsqu'il enseigne.
Oui, bien sûr qu'il est seul dans sa classe, mais c'est justement le soutien et la discussion ainsi que l'échange avec ses collègues qui vont lui permettre de faire au mieux son travail et de pouvoir apporter au mieux ce dont les élèves ont besoin.
Alain Salamin, vous vous êtes penché sur la question du salaire au mérite. Est-ce que ce système salarial peut vraiment s'appliquer au métier d'enseignant ?
Alors oui, il s'applique effectivement au métier d'enseignant, pas vraiment en Suisse, mais si on regarde une étude qui a été publiée en 2009, qui répertorie 185 000 étudiants à travers une trentaine de pays, on voit que tous les pays nordiques, Finlande, Norvège, Suède, et également le Danemark, la Nouvelle-Zélande aussi, sont tous des pays qui ont mis en place un système, pas forcément le salaire au mérite, mais en tout cas un système de récompense de la performance et de la qualité des enseignants en classe. Et ce qui est intéressant de voir dans cette étude, c'est assez impressionnant quand même, c'est que les résultats dans certaines branches, notamment les maths, sont 25% plus élevés dans les pays qui ont mis en place un système comme celui-là. Donc je pense que la question n'est pas de savoir si on peut ou pas mettre en place un système de salaire au mérite ou de mesure et de récompense la performance, mais comment est-ce qu'on peut mettre un système en place qui fasse du sens et qui aide autant le travail d'équipe que le travail individuel.
Mais comment on peut évaluer les compétences d'un professeur ?
Alors, les compétences d'un professeur, on peut les évaluer de toute une série de manières. Dans ces pays-là, par exemple, on a toute une série de modules de formation qui sont à libre choix du professeur, de l'enseignant, qui va donc choisir quelles sont les compétences qu'il veut acquérir. Donc, on peut, par exemple, payer l'acquisition et la mise en pratique de ces compétences. On peut aller beaucoup plus loin, comme les États-Unis, où on peut même évaluer la qualité de l'enseignant en fonction des notes obtenues. Et c'est plus débattable, bien sûr. sûr, c'est plus provocateur, mais les notes obtenues par les étudiants, en sachant que c'est évidemment pas les profs qui donnent les examens et qui notent leurs propres étudiants, mais c'est fait par un système neutre externe.
Peter Gasser, des études qui montrent que les élèves sont meilleurs lorsque leurs enseignants ont des primes à la performance. Selon vous, on peut se fier aux résultats des élèves pour évaluer les compétences d'un enseignant ?
Eh bien, évidemment, c'est sur ce point-là que j'ai la plus grande objection. Lorsqu'on parle d'obligation de résultat, eh bien, en fait, cela va s'opposer, en fait, à l'indépendance, l'accès d'autonomie, la curiosité, la créativité que nous devons susciter et développer auprès de l'élève. En fait, un tel système introduit ce qu'on appelle le bachotage. Le canton de Zurich, à ce sujet-là, est exemplaire. En Suisse romande, fort heureusement, les multi-checks ne sont pas bien vus, ils sont même interdits dans certains endroits, comme à Genève, et malheureusement, en Suisse allemande, ce test de compétences utilisé pour sélectionner les futurs apprentis, par exemple, dans une entreprise, et qui est payant, eh bien, ce test de performance est couramment utilisé, et on ne s'intéresse même plus aux résultats que publie l'école. Le canton de Zurich, qu'est-ce qui se passe maintenant ? En dernière année scolaire, en particulier dans les classes générales, eh bien, on travaille pendant pratiquement 6 mois à la préparation du test pour que ceux-ci le réussissent bien. Alors, on aura de bons résultats, ils vont bien réussir le test, mais est-ce qu'ils en sauront plus ? Je suis désolé, on a fait des machines, mais pas des gens autonomes et qui réfléchissent. Si c'est ça l'avenir de l'enseignement, eh bien, je crois que je vais m'intéresser à autre chose.
Alain Salamin, est-ce qu'il n'y a pas un risque que ça entraîne quand même des dérives comme celle que vient d'expliquer Peter Gasser ?
Mais bien sûr, absolument. Donc, de ce côté-là, il faut vraiment aborder le sujet en étant ni noir ni blanc, mais en voyant toutes les nuances de gris. Et effectivement, je suis tout à fait d'accord avec M. Gasser de ce côté-là. Il y a des risques. Il y a des risques importants de dérives. Il y a des risques de compétition entre les gens. Et c'est des risques qu'il ne faut pas minimiser. Est-ce que c'est une raison pour jeter le bébé avec l'eau du bain ? Pour moi, clairement pas. Pour moi, il faut investiguer. Il faut voir quelles sont les possibilités de faire quelque chose de sensé, comme on a pu le faire dans d'autres pays, et mettre en avant la qualité des prestations délivrées, tout en préservant les acquis et notamment l'indépendance de l'élève, comme c'est indiqué par M. Gasser.
Avant de poursuivre ce débat, on va voir ce que pensent les auditeurs sur cette question. Faut-il payer les enseignants au mérite ? N'oubliez pas que vous pouvez donner votre avis sur Twitter et sur Facebook, ou encore par téléphone au 0800 23 33 33. Et ce qu'on peut dire, Muriel, c'est que les sceptiques sont nombreux ce matin sur la question du salaire au mérite.
Oui, et pour commencer, je vous propose cette réaction qui nous a été laissée sur notre application smartphone en ligne directe. C'est Yves Emery, professeur à l'IDEAP, l'Institut des Hautes Écoles en Administration Publique, qui nous a laissé.
Le moteur argent n'est pas la motivation première des employés publics. Et puis souvent, il y a très peu de moyens, de budget mis à disposition par l'État. Aussi, la difficulté à évaluer le travail et la capacité de la hiérarchie à le faire. La vraie question, de mon point de vue, c'est le besoin de reconnaissance et le sentiment d'équité dans l'administration. Alors ça, c'est lié à un ensemble de facteurs. Il y a l'argent, évidemment, mais il y en a aussi toute une série d'autres qui sont certainement plus importants encore. Comment je suis considéré par ma hiérarchie ? Quelles possibilités d'influence ? Quelle confiance on m'accorde ? Quelles possibilités de développement, de formation, etc.
Et puis Yannick, enseignant, n'y voit que des désavantages. Il est très facile, selon lui, de contourner et de manipuler ce système qui encouragerait la concurrence entre collègues en lieu et place de la collaboration. Les enseignants ne sont pas des salariés comme les autres, nous écrit Ariane. Ils ne produisent rien, ils transmettent un héritage et des outils intellectuels devant permettre aux élèves de se débrouiller dans leur vie aussi bien personnelle que citoyenne et professionnelle. Et cela, en lui-même, est déjà un gigantesque travail, nous écrit-elle. Mais pour d'autres, il faut trouver une solution pour améliorer l'éducation en Suisse. C'est ce que nous écrit Pascal. Il serait normal que les profs se remettent en cause. Et là, s'il faut en arriver à ce système, eh bien, pourquoi pas ? Et puis Nicole nous écrit que oui, il faut indexer les salaires des profs au mérite, à condition que les parents aussi puissent faire leur évaluation. Il faut arrêter, nous écrit-elle, avec ce mythe que le professeur a tous les droits.
On voit dans ces commentaires que la qualité de l'enseignement est souvent questionnée, voire critiquée par certains. Alors je me tourne maintenant vers vous, Alexandre Graff. Vous êtes spécialiste en management. Vous êtes aussi penché sur la question du salaire au mérite. Est-ce que selon vous, c'est un moyen qui permet d'améliorer les compétences ? Est-ce qu'on peut être meilleur car motivé par l'argent ?
Non, c'est quelque chose avec lequel je crois pas du tout. Monsieur Emery le disait assez justement, les facteurs de motivation sont généralement peu motivés par l'argent. On pourrait poser la question à un enseignant qui s'engage aujourd'hui dans une carrière et qui décide de faire la haute école pédagogique, pourquoi est-ce qu'il le fait? Est-ce qu'il le fait pour l'argent ou est-ce qu'il le fait parce que la cause lui paraît noble? Et à mon avis, le problème vient du fait qu'au fur et à mesure de la carrière, on perd de vue et notre hiérarchie et le système nous aident pas à cela, la noblesse de la cause et l'envie qu'on avait de s'engager au départ. Et c'est sur ces enjeux-là qu'il faut travailler. On sait que l'épanouissement, l'autonomie et la reconnaissance sont des facteurs de motivation, et en l'occurrence, quand on parle de reconnaissance, c'est davantage de la reconnaissance non financière. Les pays nordiques, comme l'expliquait M. Salamin, ont mis en place des prix ou d'autres systèmes. Ça peut être très intéressant. Le prix de l'enseignant le plus créatif, celui qui a révolutionné son parcours pédagogique de manière à avoir des enseignants qui seront des élèves qui seront les plus performants possibles. Et qu'est-ce que la performance d'un élève? Est-ce que c'est leur aptitude à trouver des solutions? Est-ce que c'est leur aptitude à penser en dehors du cadre pour imaginer quelque chose de nouveau? Je pense que c'est extrêmement compliqué à identifier, mais que fondamentalement parlant, si on a des enseignants passionnés, on aura très probablement une qualité d'enseignement élevée, et on a plutôt un système qui a tendance à démotiver les enseignants, d'ailleurs comme d'autres fonctionnaires ou d'autres personnels dans les entreprises, plutôt qu'à les maintenir dans l'état de feu sacré qu'ils pouvaient avoir au début de leur carrière.
Mais améliorer les compétences, c'est quand même le but du salaire au mérite, non, Alain Salamin?
Oui, bien sûr. Alors, c'est un des buts du salaire au mérite. Maintenant, il faut bien voir que le salaire au mérite, dans la plupart des entreprises du secteur public ou parapublic, on n'est pas dans une situation d'une entreprise de la finance qui verse des bonus à ses traders en matières premières, d'accord? Donc, en termes d'argent, on n'arrivera jamais à ces montants-là. Mais c'est un message qui est fort.
Ça veut dire que s'il y avait plus d'argent, ce serait plus efficace?
Non. Effectivement, c'est pas ce que je veux dire. Parce qu'en termes de motivation, il faut quand même pas se voiler la face. L'argent reste un point très important, et d'ailleurs le canton d'Argovie a fait une étude précisément sur ses enseignants l'année passée, qui a été publiée en juin 2014. Pourquoi? Parce qu'ils avaient d'abord des problèmes de recruter, mais ensuite ils perdaient beaucoup de personnes entre 5 et 10 ans d'ancienneté. Et qu'est-ce qu'ils ont remarqué? Ils ont remarqué que si les salaires étaient très compétitifs à l'entrée et qu'ils arrivaient encore plus ou moins à attirer suffisamment de jeunes enseignants dans le domaine, qu'est-ce qui se passait après 5 à 10 ans? Il y avait beaucoup de coulures, il y avait beaucoup de gens qui sortaient, et on remarquait quoi? On remarque que ces gens, après 5 à 10 ans d'expérience, par rapport au privé, par rapport à d'autres entreprises aussi du public, ont un salaire qui est entre 10 et 15%, voire des fois 20% inférieur au marché. Et c'est une des raisons, c'est pas la seule, mais il faut quand même pas se voiler la face, la notion salariale est également un point qu'il faut prendre en compte, pas seulement pour l'argent, mais aussi pour toute la reconnaissance qui va avec, qui est pas seulement pécuniaire, mais qui va avec la distribution d'argent et qui fait référence à tout ce qui est évaluation de la prestation.
Mais Alexandre Graff parlait de démotivation. Est-ce que le salaire au mérite, ça pourrait même entraîner une démotivation des employés, Alain Salamin?
Mais alors, regardons la réalité parce que les chiffres sont têtus. Si on regarde les entreprises, grandes et moyennes, auxquelles on fait référence, dans plus de 90% des cas, ces entreprises ont mis en place des salaires de reconnaissance de la performance individuelle. Avec un certain nombre de problèmes, évidemment, mais si la majorité des entreprises le font, c'est quand même parce qu'elles y trouvent un certain avantage. Maintenant, oui, il y a des excès, oui, il y a des dangers, oui, il y a des risques, mais est-ce que c'est une raison pour pas l'essayer? La pratique nous dit le contraire. La pratique nous dit que les entreprises, majoritairement, ont mis en place des systèmes comme cela.
Peter Gasser, est-ce que vous avez le sentiment que ça pourrait démotiver les professeurs si vous étiez soumis à un système comme celui-ci?
Évidemment, parce que justement...
Mais ça peut sembler paradoxal, on est d'accord?
Non, parce que ce qui nous intéresse, c'est effectivement la qualité, la recherche de la qualité, et je m'insurge contre le fait de dire que les enseignants, un des moteurs importants, ce serait l'argent. Alors, il est vrai, on l'a très bien dit, ce qui est important, c'est la reconnaissance. Je suis très bien placé pour le savoir, puisque dans le canton de Berne, nous avons les plus bas salaires de Suisse au bout de 10 ans. Et je sais très bien que, fort heureusement, la plupart des enseignants qui entament leur carrière, ont encore toujours le feu sacré et le font quasiment par vocation. Et c'est effectivement sur cette qualité-là qu'il faut travailler. Je donne un exemple tout simple. Dans l'industrie, on a fait à un moment donné le le paiement par rapport au nombre de pièces produites, typiquement dans notre région. Qu'est-ce que ça a produit comme situation? Eh bien, les gens ont gardé leurs petits secrets au lieu d'échanger et de partager. On dit qu'il faut augmenter la productivité et la qualité. Eh bien, c'est si on partage qu'on va l'augmenter. C'est pas si on fait chacun dans son coin. Forcément qu'une individualisation, elle peut correspondre à une mentalité américaine qui est extrêmement basée sur cela, mais fort heureusement, nous ici en Suisse, on a encore une conception qui se rapproche de celle d'un grand monsieur qui a écrit que les enfants, c'est une liberté qu'on accompagne. Et c'est pas forcément des résultats précis. Maintenant, je ne suis pas du tout opposé à améliorer la qualité. Pas du tout, on le peut. Et il existe des systèmes. Sauf que ces systèmes-là, il faut aussi savoir qu'ils coûtent quelque chose. Le plus efficace, c'est que les enseignants puissent essentiellement travailler entre eux sur de l'intervision et de l'auto-évaluation. Et il y a des systèmes développés par M. Strittmatter depuis les ans 2000 qui sont appliqués dans certains cantons en Suisse et qui fonctionnent très bien. Et cela assure une meilleure prise en compte de la qualité. Et par contre, ils identifient aussi tout de suite le collègue qui est en souffrance, qui a une difficulté, et au lieu de le pénaliser, parce qu'il ne faut pas oublier, si on récompense certains, ça veut dire qu'on en pénalise d'autres, eh bien non, on va l'accompagner et l'aider à mieux pouvoir faire son travail. C'est ça l'avenir, à mon avis.
Alexandre Graff, les relations entre collègues, elles peuvent justement aussi être mises à mal avec un système comme le salaire au mérite.
Mais évidemment, ce qui est intéressant, c'est d'observer combien de personnes interviennent dans un processus. J'imagine par exemple que ce n'est pas un enseignant qui décide du nombre d'enfants allophones qu'il va recevoir dans sa classe parce que quelqu'un a décidé de fermer une classe d'accueil. Je prends un exemple hypothétique. Il n'a donc pas la maîtrise là-dessus. Faites un sondage autour de vous, les auditeurs pourraient se poser la question. Est-ce que tout le monde en allant travailler le matin a l'impression qu'il fait bien son travail? Je pense que la part des gens qui délibérément font mal leur travail est infime. Donc à la fin de l'année, vous avez tout le monde qui se dit « Moi j'ai bien fait mon travail, je mérite mon bonus. Je mérite mon bonus, mais il n'y a que 6 millions dans le canton de Zurich. Donc on va les répartir. Comment ?» Alors c'est effectivement celui qui aura eu le plus d'enfants en difficulté qui aura le plus gros mérite. Mais moi j'en voulais volontiers des enfants en difficulté. Je ne les ai pas eus, c'est le système qui fait ça. Je suis dans un village ou je ne sais quoi et je n'ai pas ces enfants-là. Donc oui, je vais trouver ça injuste. Donc, le bilan des opérations, si j'obtiens mon bonus, je suis juste satisfait parce que je trouve ça normal. J'ai bossé pour ça. Mais si je ne l'obtiens pas, je m'énerve.
Mais est-ce que ce n'est pas le cas dans toutes les entreprises finalement? C'est le cas chez les enseignants, mais dans toutes les boîtes.
Complètement. Et M. Salamin disait qu'effectivement 90% des entreprises le font. Je ne suis pas tout à fait convaincu que ce soit le chiffre. Nous, on a travaillé avec des entreprises à la suppression pure et simple de ce modèle-là et on a beaucoup plus de résultats. Calculer également, c'est intéressant, je ne sais pas combien il y a d'enseignants dans le canton de Zurich, mais admettons qu'on doit mettre 10 heures par année de travail pour évaluer la qualité du travail et fixer ce bonus. Ça me paraît raisonnable et une fourchette relativement basse. S'il y a 1000 collaborateurs, c'est 10 000 heures de travail pour organiser ce système. 10 000 heures de travail, c'est 5 enseignants à plein temps. Alors je pense qu'on aurait des salles, des classes qui mériteraient d'avoir 5 enseignants qui viendraient les épauler pour avoir une meilleure qualité d'enseignement. Pour moi, c'est un système qui a vécu. Maintenant, effectivement, Einstein disait qu'on ne peut pas résoudre les problèmes d'aujourd'hui avec les cerveaux de ceux qui en sont à l'origine. Et qu'il va falloir un jour changer de paradigme, et progressivement, d'ailleurs venu des États-Unis, ça va se faire. On vient de voir une première entreprise de la Silicon Valley qui a décidé de mettre un salaire à 70 000 $ pour tous les collaborateurs, y compris le patron, et puis de redistribuer les bénéfices de l'entreprise. Cette fois-ci, ça devient un petit peu plus intéressant. Et effectivement, M. Gasser le disait, on ne conserve pas son petit secret, mais on travaille tous ensemble pour un but commun.
Alain Salamin, ces différents aspects qu'on vient d'entendre, est-ce que ça ne rend pas le système du salaire au mérite contre-productif?
Oui, mais là on fait un raccourci quand même assez important, parce que le salaire au mérite, effectivement, c'est un paiement individuel. Mais rien n'oblige les entreprises qui mettent en place un système comme ça à avoir des critères de performance individuelle qui déterminent ce paiement. Et qu'est-ce qu'on voit dans la pratique? On voit justement dans la pratique qu'il y a beaucoup d'exemples où les entreprises fixent des objectifs aux employés qui sont des objectifs de collaboration, de travailler ensemble, de partager, d'être en équipe, d'être productif avec les gens autour de soi. Et c'est ce comportement au sein de l'équipe qui est évalué et qui est ensuite récompensé. Donc attention aux raccourcis. C'est pas parce qu'on paye un salaire individuel ou une augmentation, un bonus individuel, que les critères qui déterminent ce bonus sont purement individuels.
Alors comment on le mesure, demandait Alexandre Graff.
Comment on mesure la collaboration? Comment on mesure la communication? Souvent, je vois dans des entretiens annuels, améliorer votre communication avec vos collègues. Comment est-ce qu'une année plus tard, on dit à la personne, vous avez amélioré ou vous n'avez pas amélioré?
Alors, sans rentrer trop dans le détail, hein, mais oui. Je vais vous laisser répondre à l'ince à la main.
Effectivement, on ne va pas faire un cours de ressources humaines ici, mais on sait tous que quand on voit des gens fonctionner en équipe, quand on demande à l'équipe comment ça va, comment ça fonctionne, quand on a la proximité nécessaire avec les gens et avec l'équipe, on arrive très bien à donner du feedback en continue et à évaluer les situations où ça se passe pas bien. Donc là encore, de dire on peut pas le mesurer, donc on s'en occupe pas, pour moi c'est pas une attitude responsable en termes de management.
On l'a dit, hein, la récompense au mérite se fait beaucoup dans les entreprises privées, mais ça a toujours été beaucoup plus difficile à faire passer hein, dans la fonction publique. Alain Salamin, comment vous expliquez ces réticences ?
Alors d'abord, oui et non, hein, parce qu'on a toute une série d'entreprises publiques et parapubliques qui ont mis en place le salaire au mérite. Je prends juste l'exemple du canton du Valais. Ça fait une dizaine d'années que le canton du Valais, pour toute l'administration publique, a mis en place un salaire au mérite. Ce qui est intéressant de voir, c'est le résultat, qu'est-ce qu'en pensent les employés. Depuis 3 ans, le canton du Valais est la première entreprise dans le classement bilan des meilleurs employeurs en Suisse romande. C'est la meilleure entreprise du secteur du parapublic et du public. Donc, attention, là encore, on voit qu'on peut le faire. On
mais il n'y a pas beaucoup d'exemples en Suisse quand même. Vous prenez l'exemple des Valais. Remarque
par rapport à Berne.
Alors je vais juste laisser finir monsieur Salamin.
Non, attention, là aussi, si on regarde les CFF, ils ont un système de salaire au mérite. Si on regarde des grandes entreprises comme les services industriels à Genève, comme Romand d'Énergie, les retraites populaires, si vous voyez l'interview de Jean-Daniel Jean-Dupeux, qui est le directeur des ressources humaines de La Poste, il dit lui-même que le système de l'ancienneté pose problème d'un point de vue valorisation de ce que font les gens et ils veulent en sortir. Donc, c'est possible aussi dans les entreprises publiques et il y en a qui le font comme il faut.
Peter Gasser, votre avis sur le salaire au mérite pour les profs, il vaut aussi pour la fonction publique ?
Oui, justement, je voulais donner un exemple, un contre-exemple. Dans le canton de Berne, les employés de l'État, parce qu'il n'existe plus de fonctionnaires dans le canton de Berne, eh bien, sont soumis au salaire au mérite depuis une quinzaine d'années. La lecture, au bout de 15 ans, elle est très simple. Les évaluations ont été faites avec les pertes en heures de travail, etc., par des supérieurs qui évaluent des gens qui sont plus bas de la hiérarchie, comme on l'a très bien dit auparavant, eh bien, les gens ont reçu les qualifications, mais au bout du compte, on n'a pas donné plus de salaire parce qu'il n'y avait pas d'argent. C'est exactement ce qui s'est passé pendant 15 ans. Le canton de Berne, à majorité bourgeoise, a même reconnu cet état de situation, a reconnu l'échec de cette politique, et c'est pour ça qu'il a décidé, pour les 3 prochaines années, un canton à majorité bourgeoise, de assurer une augmentation de 1,5% de la masse salariale ces 3 prochaines années, parce que, somme toute, au bout de 15 ans, on remarque que c'est le seul système efficace.
Alexandre Graff, le fonctionnariat s'est fait au salaire au mérite. On voit que ça prend de plus en plus d'ampleur. Est-ce que c'est une bonne chose ou ça ne prend pas la bonne direction ?
Non, alors attention, d'avoir des fonctionnaires qui sont bien payés me paraît quelque chose d'important. Et effectivement, dès qu'on commence à comparer son salaire à celui d'un autre, on est très vite démotivé parce qu'on n'a pas ce salaire-là. Mais le mettre en exergue pour faire progresser la fonction publique, je n'y crois pas. Aujourd'hui, si je regarde ça sous l'angle de gestion des deniers publics, le coût, Monsieur Gasser le disait, de mise en œuvre de ce système est largement supérieur aux bénéfices qu'il peut amener. Et on pourrait largement simplifier ça. En plus, M. Salamin le relevait au départ, les montants ne sont largement pas ceux de la finance ou du monde du négoce pétrolier. Donc moi, c'est quelque chose auquel je ne crois pas. Malheureusement, on a un peu ce trend et on suit avec quelques années de retard, parfois dizaines d'années de retard, ce qui se fait dans d'autres pays ou dans le secteur privé, aux États-Unis notamment. J'en mets ma main au feu, on en reviendra. Et dans 20 ans, vous referez une émission qui traitera de la disparition de ce système.
Donc ce que vous nous dites, c'est qu'aujourd'hui, le salaire au mérite, c'est obsolète et on tend de toute façon vers un autre système.
Complètement.
Alors, est-ce qu'on ne sait pas revenir en arrière, tendre vers un autre système ?
Probablement, mais je pense qu'il y a d'autres aspects. Pour moi, j'aimerais bien voir revenir en arrière, par exemple, sur l'autonomie qu'ont les gens pour faire leur travail. Je suis inquiet aujourd'hui de voir l'industrie de la norme qui commence à dire aux enseignants comment ils doivent enseigner. Et quelques enseignants me confiaient qu'il y a 20 ans, leur manuel pédagogique faisait une centaine de pages et qu'aujourd'hui, c'est 3 classeurs fédéraux pour leur expliquer comment est-ce qu'ils doivent faire leur travail.
Alain Salamin, À vos yeux, fonctionnaire ou non, tout travail se paye au mérite.
Oui, encore une fois, attention aux simplifications. Je pense qu'il y a quand même un paradoxe qu'il faut évoquer dans le système de l'enseignement. C'est que si on regarde le message qui est donné, notamment dans tout le secteur secondaire, mais aussi de plus en plus en primaire où les notes sont présentes, qu'est-ce qu'on dit aux élèves? On dit aux élèves, il faut que tu travailles bien, il faut que tu fasses ce que tu dois faire pour apprendre ce que tu as à apprendre. On va te faire passer des examens, on va te noter, et si tu es bien noté, tu vas pouvoir passer dans l'année suivante. Si tu es mal noté, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, tu vas être calé. Et en fait, cette logique qui est présente, qui est une logique de compétitivité, on la retrouve pas du tout au niveau de l'enseignement. Maintenant, au niveau de ceux qui enseignent. Donc, maintenant, est-ce que tout le monde a besoin et doit passer par le salaire au mérite? Non, soyons pas intégristes. Encore une fois, il y a des problèmes avec le salaire au mérite. Ils ont été évoqués tant par Monsieur Graff que par Monsieur Gasser. C'est pas forcément la panacée. Mais dans l'état actuel des choses, force est de reconnaître qu'il n'y a pas vraiment d'autre solution. J'ai vécu dans une entreprise américaine où j'étais responsable pour l'Europe des ressources humaines, où la décision a été prise d'abandonner tout système d'évaluation de la performance et de récompense la performance. Ça a tenu 2 ans. Et ensuite, on est revenu en arrière. Donc, les solutions vite faites, bon marché, qu'on arrive à prendre sur l'étagère dans le supermarché, j'y crois pas non plus. Encore une fois, il y a des problèmes avec le salaire au mérite. Mais je pense que ça vaut la peine de pas tout éliminer et de bien travailler pour voir qu'est-ce qui marche et qu'est-ce qui marche pas.
Eh bien, l'avenir
c'est
nous dira
ça que
si.
C'est une proposition.
Eh bien, il faudra une autre émission pour que.
D'évaluation périodique.
Eh bien, nous ferons une autre émission pour que vous fassiez votre proposition. Mais pour l'heure, on arrive déjà au terme de cette émission et on va conclure avec un dernier commentaire d'auditeur.
Oui, on a trouvé ce prof qui est favorable au salaire au mérite. C'est Jean-Charles qui nous a appelé d'Uric. Il a été enseignant. Il a lui-même rencontré des enseignants avec lesquels les élèves perdent leur temps. On doit donc payer au mérite. Comme ça, on élimine certains enseignants qui sont le fléau de la branche. Et puis, Marcel qui nous dit avec humour, il propose qu'on rémunère le mérite des élèves.
Et c'est la fin de ce débat. Faut-il payer les enseignants au mérite? Merci à nos 3 invités d'y avoir participé. Alain Salamin, consultant en ressources humaines et chargé de cours à HEC Lausanne. Peter Gasser, co-président du syndicat des enseignants du Jura bernois. Et Alexandre Graff, directeur d'une société de conseil en management à Genève. Très bonne journée à vous.